Voilà.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans C'est pas du vent. Allons-nous vers une épidémie de pandémie ? La crise du Covid-19 a rendu la question brûlante et mis en évidence les conséquences dramatiques de la destruction par l'homme des écosystèmes. 1 million d'espèces animales et végétales sont aujourd'hui menacées d'extinction à cause de la déforestation. Et quand la biodiversité décline, les maladies infectieuses apparaissent. Il a donc fallu qu'un nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2, fasse quelques 6 millions de morts et paralyse le monde entier pour que l'on comprenne que la biodiversité est essentielle pour notre santé. Pourtant, depuis une trentaine d'années, les signaux d'alerte n'ont pas manqué.
L'Organisation mondiale de la santé se dit très inquiète concernant l'évolution de la grippe aviaire qui pourrait provoquer une pandémie d'une même ampleur que la grippe espagnole de 1918.
La pandémie de grippe espagnole aurait causé entre 50 et 100 millions de morts. C'est effectivement l'une des pires pandémies en termes de mortalité de l'histoire.
Le VIH, le virus d'immunodéficience humaine, serait une mutation du VIS, un virus présent chez certains singes d'Afrique. La contamination s'expliquerait par la consommation de viande de singe, survenue probablement dans les années 40.
Voici l'ennemi juré, ce moustique tigre, qui nous vient d'Asie du Sud-Est et qui pullule dans le Sud. C'est lui qui pourrait bien nous amener un nouveau virus. Après la dengue et le chikungunya, les autorités de santé alertent désormais sur le virus du Zika.
C'est une rivière du Nord Zaïre, un affluent du Congo, qui traverse des forêts denses, la rivière Ebola. En août 1976, un mal étrange frappa les villages de cette région. Atteints subitement de fièvre, prostrés, les malades semblaient se vider de leur sang.
Jamais observée jusque-là, la souche incriminée appartient à la famille des coronavirus et peut provoquer ce que l'on appelle un SRAS, un syndrome respiratoire aigu sévère.
Marie-Monique Robin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, autrice, réalisatrice et l'on est ravis de vous recevoir pour la sortie de votre nouveau documentaire « La fabrique des pandémies », inspiré du livre du même nom que vous avez publié il y a un an. Alors d'habitude, vous réalisez un film dont vous tirez un livre. Là, c'est la crise sanitaire qui vous a obligé à faire l'inverse.
Oui, tout à fait. D'habitude, je fais d'abord le film, j'écris le livre, tout sort en même temps, sauf que là... Confinement oblige, j'ai changé mes habitudes et j'ai d'abord écrit le livre. Donc c'était un livre de confinement, c'est-à-dire que j'ai interviewé sur Skype, Zoom, 62 scientifiques sur les 5 continents. J'ai d'abord sorti le livre, ce qui m'a permis évidemment de faire un synopsis. Alors c'était intéressant comme exercice en fait finalement, c'est de travailler dans l'autre sens, très précis et très détaillé, fondé sur tous ces entretiens avec ces scientifiques.
Alors ce documentaire, il est un peu particulier. Vous êtes parti à la rencontre d'une douzaine de scientifiques qui travaillent sur la biodiversité dans 8 pays sur 4 continents. Et vous avez embarqué dans cette aventure l'actrice Juliette Binoche. Comment avez-vous eu cette idée ?
Alors en fait, j'étais déjà en train d'écrire mon livre, mon synopsis était terminé, je l'avais déposé, etc. Et Juliette Binoche m'appelle pour me demander de faire partie du jury d'un festival du film de l'environnement à Porquerolles, dont elle était la présidente. Et quand elle a su sur quoi je travaillais, elle m'a dit « j'aimerais tellement comprendre, parce que je voudrais avoir plus d'impact aussi, de vu ma notoriété ». Dans toutes ces questions fondamentales, environnementales, etc. Mais je n'y connais rien. Donc, au début, je m'étais dit, bon, alors, elle sera au début et à la fin, et puis elle fera le commentaire, ça peut être sympa. Enfin, et elle a vraiment insisté pour être le plus possible dans
les tournages. Oui, finalement, elle ne fait pas de la figuration. C'est elle qui mène les interviews, qui pose les questions aux scientifiques. Et ce sont des questions, finalement, que tout le monde se pose.
Oui, alors, moi, ce qui m'intéressait, c'était le travail qu'elle a fait pour quand même bien comprendre de quoi il s'agissait. Elle a beaucoup travaillé, elle a lu mon livre dans tous les sens. Et puis, ce qui était intéressant, c'était, à part ces questions prévues, écrites, parce qu'il fallait absolument que cette matière scientifique soit présente, elle se permettait de faire des pas de côté, que moi je n'aurais pas fait, et qui sont très bienvenus, parce que finalement, à chaque fois, ça ramène... ce chemin de connaissance, comme elle dit, au niveau des spectateurs. C'est-à-dire, voilà. Il n'était pas question, en tout cas, qu'elle soit une potiche, vous voyez, quand elle est là, mais ça se voyait. Non, non. Elle a vraiment joué ce rôle de passeuse. Et on voit d'ailleurs dans le film, à chaque fois que je le revois, je me dis, c'est sa progression à elle aussi. Hein, c'est-à-dire, elle s'approprie de plus en plus les questions. Enfin, voilà. Et c'est un magnifique rôle de passeuse qu'elle joue. Et je le remercie parce que c'était un pari et je pense que c'est réussi.
Et grâce à elle, vous pensez pouvoir toucher un public qui ne s'intéresse pas forcément à l'environnement ?
Oui, alors quand on fait des films et des livres comme moi depuis des années, notamment avec des scientifiques, la question, j'ai toujours un plafond de verre. Hein, c'est-à-dire, moi, mes films sont connus, mes livres, etc. Mais vous dites toujours, est-ce que finalement, je ne touche pas toujours les mêmes, quoi ? C'est-à-dire, des personnes qui sont déjà plus ou moins, ou plutôt plus que moins, intéressées par la question de l'écologie, etc. Donc, comment on fait pour casser ce plafond de verre ? Donc, l'idée, c'était comment est-ce qu'on peut rendre accessible à un très large public ? Parce que vous savez, il y a une espèce de méfiance par rapport à la science. Souvent, on se dit, si on n'a pas de formation scientifique, je ne vais rien y comprendre. Donc, on n'a pas envie d'aller voir des films où les héros, si j'ose dire, sont les scientifiques. Et donc là, c'était ça l'idée. Et grâce à Juliette, qui assume ce rôle de candide, c'est-à-dire de quelqu'un qui ne connaît pas, qui apprend en chemin, eh bien, je pense que c'est accessible à tout le monde. Et ça, j'en suis vraiment très contente.
Alors, ces chercheurs, vous les avez rencontrés aux quatre coins de la planète. Ils travaillent sur le terrain, dans des conditions pas forcément faciles. Ils ressemblent parfois plus à Indiana Jones qu'à des scientifiques en blouse blanche ou costume cravate. Et la forêt tropicale n'est pas toujours facile d'accès. Ça, vous l'avez expérimenté, vous aussi.
Ah oui, bien sûr. On a vraiment, vraiment bourlingué, dormi dans les hamacs en Amazonie. Je me souviens surtout du Gabon, c'était extrêmement difficile parce qu'on devait aller avec un virologue. Après 10 heures de piste sur des routes vraiment très, très difficiles, ensuite marcher dans la forêt, etc., pour rejoindre une grotte de chauves-souris, ça, c'était très physique, quoi. Hein, ouais. L'idée, c'était de montrer que depuis des décennies, des scientifiques du monde entier tirent la sonnette d'alarme en disant « Si nous continuons à détruire les écosystèmes, et notamment les forêts primaires qu'on a dans les zones tropicales, nous allons au-devant de graves problèmes de santé. » Et notamment, alors, ce que Serge Morand, l'un des scientifiques du film, appelle une ère d'épidémie, de pandémie. Voilà. Et c'était aussi de les rassembler. Parce qu'en fait, d'ailleurs, quand nous avons fait l'avant-première à l'UNESCO vendredi dernier, il y avait Serge Morand, ce parasitologue et chercheur du CNRS, qui vit en Thaïlande depuis une dizaine d'années, que nous sommes allés donc rencontrer avec mon équipe et Juliette. Et il était très ému parce qu'il dit « ça fait du bien de voir ». Il les connaissait tous, bien sûr, mais ils se connaissent par publication interposée, vous voyez. Et là, les avoir tous rassemblés, ça donne une cohérence, vous voyez, à leur message. Parce que finalement, vous vous dites que ce soit Serge Morand qui travaille notamment sur les rongeurs en Thaïlande, n'est-ce pas ? Ou Gaël Maganga, le virologue gabonais, qui travaille plutôt sur les chauves-souris. Ou Patricia Wright, une américaine qui travaille sur les lémuriens à Madagascar. Eh bien, tous vous disent la même chose, quoi. C'est-à-dire que nous sommes absolument interdépendants de la santé des écosystèmes, des animaux sauvages et domestiques. Et que si ces animaux sauvages continuent à disparaître, ce sont vraiment des sentinelles pour nous. Hein. Eh bien, nous allons suivre. Et en plus, en payant un prix très fort. Et le prix, ça sera notamment une épidémie de pandémie.
On va écouter un premier extrait de votre documentaire. Juliette Binoche garde devant la caméra sa spontanéité. On la voit émue, fascinée, inquiète ou blagueuse.
Mais la biodiversité, c'est l'infinie beauté du monde, du micro-organisme jusqu'au jaguar, jusqu'au panda, tu comprends ?
Alors, il y a quand même 650 espèces de moustiques. Et là, alors là, la biodiversité,
à quoi ça sert ? Justement, il vaut mieux avoir beaucoup de moustiques qu'un seul qui s'appelle le moustique tigre. En ville, tu as moins de diversité de moustiques,
mais ils sont plus
dangereux.
Vive les 650 moustiques !
Juliette Binoche et le chercheur Rodolphe Gozlan sur le fleuve Sinnamary en Guyane, au-dessus d'un immense cimetière végétal, puisque des millions d'arbres ont été engloutis par la construction d'un barrage. Marie-Monique Robin, expliquez-nous en quoi cette histoire de moustiques illustre ce que les chercheurs appellent l'effet dilution.
Ouais, tout à fait. Alors c'est extraordinaire. Effectivement, quand on arrive dans l'Amazonie, bon, Juliette a entendu qu'il y avait 650 espèces de moustiques et ça fait flipper, quoi. On se dit, waouh, ouais, ça va être l'enfer, quoi. Donc on a envie de s'habiller comme des cosmonautes, enfin, vous voyez, se mettre un tas de produits, etc. Mais en fait, sur les 650 espèces de moustiques, il n'y en a que deux qui sont habilités à piquer les humains. C'est-à-dire que les autres piquent des oiseaux, des mammifères, mais pas nous les humains déjà, pour commencer. Et ces deux espèces-là, donc, dont le moustique tigre évidemment, mais aussi les anopheles, sont ceux qui donc, transportent des maladies très dangereuses pour nous, aussi bien le paludisme, la dengue, le chikungunya, le zika, enfin oui, toute une série de maladies quand même pas très cool quoi. Mais quand vous avez 650 espèces de moustiques dans un espace, la probabilité d'être piqué par l'un des deux est quand même très très réduite, vous comprenez ? Voilà, c'est ce qu'on appelle l'effet dilution en fait. La diversité dilue, il n'y en a aucun qui domine. Quoi, voilà. En revanche, quand vous coupez les arbres, par exemple, pour faire l'exploitation de mines, alors on était en Guyane, donc par exemple de l'orpaillage, voilà. Donc vous allez couper les arbres, vous allez donc constituer des réserves d'eau, parce qu'évidemment, c'est comme, voilà, il y a des clairières, etc. Et ces moustiques, il y aura des humains qui seront présents évidemment dans ce lieu. Eh bien, les deux espèces qui sont ennuyeuses pour nous, elles vont du coup être attirées par cet abattage d'arbres. Et là, c'est là que le danger commence, vous voyez. Donc, l'effet dilution, c'est un mécanisme qui a été mis au jour par deux scientifiques américains que nous sommes allés rencontrer aux États-Unis.
Richard Rosfeld et Felicia Kissing.
Tout à fait. Et pour moi, c'est fondamental dans cette démonstration. Et je suis contente parce que c'est contre-intuitif, si vous me permettez, je vais expliquer pourquoi. Parce qu'on pourrait même se dire, oh là là, laisse tomber, je comprends rien. Non, c'est contre-intuitif, mais en même temps, c'est facile à comprendre, quoi, si on prend le temps. Voilà. Pourquoi il y a beaucoup d'agents pathogènes dans les forêts tropicales ? Évidemment, parce que c'est là où il y a une grande faune très diversifiée, des arbres. Vous avez vu, par exemple, dans le film, on le voit en Guyane, plus de 2000 espèces d'arbres. Donc, grande diversité végétale, animale, et donc beaucoup de micro-organismes, dont des virus, des parasites, vous voyez, qui peuvent être potentiellement dangereux pour les humains. Mais tant qu'on n'intervient pas, nous, les humains, dans ces espaces, il y a un équilibre qui est là.
Et ces virus, ils dorment tranquillement.
Voilà, ils dorment tranquillement. Ils sont hébergés par des réservoirs. Hein. Donc on apprend aussi ce que c'est qu'un réservoir. Hein. Juliette dit, c'est quoi un réservoir ? Ben, un réservoir, c'est ce qu'on appelle des porteurs sains. Hein. Les principaux réservoirs, ce sont d'abord les rongeurs, ensuite les primates et ensuite les chauves-souris. Donc ces animaux hébergent ces virus, mais sans aucun signe clinique.
Hein, voilà, ils ne sont pas malades.
Pas malades. Et puis ils sont là depuis tout le temps, ces virus, etc. Et ça nous embête, ça nous a jamais embêté. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ils sortent du bois. Voilà. Alors, si on se dit, bah voilà, c'est dans les forêts tropicales qu'il y a tout ce risque potentiel, n'est-ce pas ? Ce danger potentiel. Ah ben, rasons les forêts, exterminons les chauves-souris. Ah ben non, en fait, c'est tout le contraire qui se passe. Donc, ça a été très bien démontré par des études, notamment par Serge Morand, à qui je rends hommage, et je rends hommage à tous ces scientifiques, d'ailleurs. Parce que c'est fabuleux de voir comment ils passent des années sur une tique. Enfin, vous voyez, bref. Eh bien, quand on prend la carte, par exemple, pour l'Asie du Sud, la carte de la déforestation de 1950 à 2008, la carte des émergences de maladies infectieuses, il y en a plus d'une centaine, c'est pas rien quoi. Et la carte des espèces menacées d'extinction, les trois cartes se superposent, c'est-à-dire que plus on déforeste, plus on réduit la biodiversité, plus il y a de maladies infectieuses qui émergent.
C'est ce que montre Serge Morand dans le film à Juliette Binoche.
Voilà, tout à fait. Alors ça, on se dit, mais comment c'est possible quoi ? Et c'est possible parce qu'il y a l'effet dilution. Et cet effet dilution donc, était révélé par ces deux chercheurs américains qui ont travaillé sur la maladie de Lyme. Vous savez, cette maladie qui est de plus en plus malheureusement courante. Aux États-Unis, c'est
300 000 personnes affectées chaque année. Et là aussi, aux États-Unis, donc, la cause de l'apparition de la maladie de Lyme vient de la suppression des forêts, enfin de la fragmentation des forêts.
Tout à fait. Et d'ailleurs, je suis allée filmer dans le nord de l'État de New York avec ces deux chercheurs. Effectivement, quand vous êtes sur la highway, l'autoroute, là, vous dites, oh, il y a plein d'arbres, c'est super. Mais en fait, vous prenez un drone, vous verrez, c'est tout parcellisé, vous voyez, c'est morcelé. C'est la forêt avec un champ au milieu d'un seul coup, une maison, enfin, etc. Et ils ont montré quoi ? La maladie de Lyme, vous savez, elle est transmise par une tique. Mais quand les tiques naissent, elles ne sont pas infectées par la bactérie qui s'appelle Borrelia burgdorferi. Bon, voilà, la tique de la bactérie de la maladie de Lyme. Pour qu'elle soit infectée, il faut qu'elle fasse un repas sanguin sur un certain type de rongeur très bien défini, qui est la souris à pattes blanches, qui est le réservoir de cette bactérie. D'accord ? Si elle se nourrit sur n'importe quel autre animal,
il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème. Ça peut être un opossum, un renard, un oiseau. Il n'y a pas de problème parce qu'ils ne sont pas compétents, on dit dans le jargon des scientifiques. Ils ne portent pas la bactérie. Et ils ont constaté, ces scientifiques, que quand vous fragmentez une forêt, eh bien, les premiers à disparaître, c'est les prédateurs, parce qu'ils n'ont plus assez d'espace pour vivre. Alors, par exemple, les lynx, les renards, pas de chance, parce qu'en plus d'être non compétents, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la bactérie, hein, ils contrôlent la population des rongeurs, dont celle des souris à pattes blanches. Donc, vous voyez, ils ont vraiment un rôle de dilution, véritablement, vous voyez, du risque. Et ne vont rester que, en fait, ces souris à pattes blanches, que les scientifiques appellent des rongeurs généralistes, c'est-à-dire, comme leur nom l'indique, ils sont adaptés à tout type d'environnement. Quand vous cassez une forêt et vous mettez du maïs transgénique à la place, ils sont ravis, ils mangent du maïs transgénique. Ce que ne feront pas d'autres rongeurs qu'on dit spécialistes, parce qu'eux, ils sont liés à certains types d'aliments, à certains types de graines, à certaines niches écologiques. Et aussi disparaissent quand vous fragmentez la forêt. Vous voyez ? Donc voilà comment ils ont constaté que quand vous avez fragmenté une forêt aux États-Unis, vous augmentez, vous multipliez par 5 le risque d'avoir la maladie de Lyme. C'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de souris à pattes blanches dans ces forêts fragmentées et de plus en plus de tiques et de tiques infectés. Voilà. Alors, ce que je viens de décrire, ça marche pour plein de maladies vectorielles, c'est-à-dire qu'ils transitent, vous voyez, il y a un vecteur, hein, le moustique, la tique, etc. Mais aussi pour d'autres maladies qui n'ont pas de vecteur. Donc, ça montre vraiment que la biodiversité protège notre santé, vous voyez.
Marie-Monique Robin, on va écouter Émilie Loiseau. Elle a composé la musique de votre documentaire et la chanson du générique Rise. On se retrouve juste après.
All these years you tried to raise prison that you've built is nigher. The time has come to look out through your window. The mess you've made is knocking on your door. Ooh, you need to hold to rise for another world. Can't you see that I'm your only friend? You can take my calls, don't be afraid. Now's the time.
Rise, Émilie Loiseau sur RFI dans C'est pas du vent. Nous sommes toujours en compagnie de la journaliste, autrice et réalisatrice Marie-Monique Robin pour le documentaire inspiré de son livre La fabrique des pandémies. On va partir maintenant en Thaïlande où vit Serge Morand, écologue de la santé et parasitologue. C'est le grand spécialiste des rongeurs. On le voit s'enfoncer dans la forêt de la province de Nan et dans les grottes où vivent des chauves-souris. En 1999, c'est indirectement par les chauves-souris que le virus Nipah s'est propagé dans le sud-ouest de la Malaisie, faisant 108 morts. Serge Morand raconte.
Voilà, c'est une rencontre totalement impossible entre une chauve-souris, un cochon et un humain, et surtout dans un pays musulman qui ne mange pas de cochon, la Malaisie. Ces cochons-là, ils bougeaient pour aller à Singapour.
Donc cette chauve-souris, c'est le réservoir du virus Nipah.
Exactement. C'est une frugivore, elle vit en Asie du Sud-Est, sur l'île de Bornéo. Mais Bornéo a commencé depuis quelques dizaines d'années à une déforestation relativement importante.
Pourquoi ?
Pour le palmier à huile. Donc de plus en plus de feux de forêt.
Et donc ces chauves-souris, elles sont stressées parce que leur habitat a été brûlé. Et donc elles sont allées en Malaisie.
Bah, dans des endroits où il y a des plantations de fruits. Les chauves-souris arrivent sur ces manguiers qui sont au-dessus des élevages de cochons, mangent les mangues. Des fèques avec
sur
le virus.
Les porcs.
Voilà. on commence à avoir de la mortalité sur les cochons, on commence à avoir de la mortalité sur les gens qui élèvent les cochons dans les abattoirs de Singapour.
Parce que le porc a 95% de gènes similaires à l'homme.
Tout à fait, et il est proche de l'humain par le phénomène même de la domestication. Immunologiquement, ben là c'est aussi banco parce qu'on permet finalement à ces virus de s'adapter. Ils s'humanisent dans le cochon et ils passent après chez nous.
Donc quelle est l'importance de l'élevage intensif dans les pandémies ?
Il faut reprendre les chiffres déjà de cet élevage intensif. On est arrivé à plus d'1,6 milliard de vaches. Le poids des vaches sur la planète est plus élevé que le poids de tous les humains. Les poulets, on en avait à peu près 5 milliards en 1960. En 2020, là, on en a 30 milliards. Et ces animaux-là sont tous génétiquement uniformes, mais aussi en même temps sont des amplificateurs fantastiques pour le lien avec la faune sauvage, qui est en diminution, elle, et le lien avec les humains.
Pourquoi Nipah n'a pas été planétaire et SARS-CoV-2 est planétaire ?
En 1970, on n'était que 400 millions de personnes à prendre l'avion, dont moi. En 2019, on était 4 milliards 300 millions environ.
Ah ouais, c'est fou.
C'est la globalisation. Et c'est la même chose pour le transport en bateau, pour la même chose pour le transport en camion. Donc on bouge tout, les animaux, les plantes, les humains, dans tous les sens. Pouf, c'est banco pour un virus. En quelques mois, il est sur toute la planète.
Marie-Monique Robin, est-ce qu'on peut dire que la petite phrase de Thomas Gillespie, qui est primatologue et écologue de la santé, ce ne sont pas les animaux qui sont responsables, mais nous, finalement, fait écho à ce que vient d'expliquer Serge Morand à Juliette Binoche?
Tout à fait. Très clairement. Les chauves-souris, d'ailleurs, on les découvre dans le film, elles sont évidemment porteuses de beaucoup de virus, mais moi, je suis tombée amoureuse de ces animaux qui sont les seuls mammifères volants, parce que c'est absolument extraordinaire. Quoi. Et pour pouvoir voler, d'ailleurs, elles ont développé un métabolisme très particulier qui leur permet justement, en maintenant une température corporelle élevée, d'avoir tous ces virus qui sont tombés malades. Vous savez, quand on a de la fièvre, c'est une manière de se protéger de l'activité virale, par exemple. Et elles jouent un rôle fantastique dans la nature. On en a besoin, parce que ce sont elles qui... Elles pollinisent, par exemple. Elles mangent les moustiques qui peuvent nous rendre malades, vous voyez.
Donc elles sont injustement mal aimées.
Ah oui, totalement injustement mal aimées. Parce qu'en fait, ce qu'on découvre dans le film aussi, d'ailleurs grâce à Thomas Gillespie, je suis allée le filmer à Atlanta.
Oui, qu'elles éprouvent du stress. Hein.
Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, comme on vient d'entendre avec l'histoire du virus Nipah, quand on brûle la forêt primaire de l'île de Bornéo pour mettre en fait des palmiers à huile, n'est-ce pas, elles doivent s'enfuir parce qu'on détruit leur habitat. Et elles stressent. Et ils ont mesuré les hormones du stress dans leurs urines, dans les excréments, les scientifiques. Hein. Et quand elles stressent, c'est justement là qu'elles peuvent, elles excrètent ces virus dont elles sont porteuses, à travers tous ces fluides, qui donc peuvent du coup contaminer des animaux domestiques, sauvages, qui sont par là, hein, par exemple. Ou des aliments que vont manger des singes, par exemple, hein, ou des animaux domestiques, comme c'est l'histoire du virus,
mais
par des cochons, en l'occurrence. Alors les cochons, en plus, les cochons, ils sont très proches de nous. Nous partageons 95% de nos gènes avec les cochons. D'ailleurs, vous savez, on veut faire des greffes d'organes à partir de cochons, parce qu'on est très proche d'eux. Donc évidemment, il faut comprendre qu'un virus d'origine zoonotique, c'est-à-dire qui vient d'un animal, par exemple d'une chauve-souris, ne saute jamais directement à l'homme. Il faut qu'il ait un intermédiaire dans lequel il va pouvoir muter, s'adapter, pour pouvoir ensuite, voyez, entrer dans les organismes humains. Et le cochon, ça, c'est bingo, parce qu'on est proche de lui. Donc effectivement, comme le dit Serge, les cochons permettent d'humaniser, entre guillemets, les virus d'origine zoonotique. Mais c'est vrai aussi, évidemment, pour les primates. Nous partageons 99% de nos gènes avec les primates, n'est-ce pas ? Donc ce ne sont pas les animaux qui sont responsables, il a raison, Thomas. Ce sont nos activités humaines, anthropiques, comme on dit, hein, qui font que nous faisons de plus en plus d'incursions dans ces derniers espaces de nature primaire, n'est-ce pas, pour faire des cultures, par exemple de palmier à huile, du soja qui va ensuite nourrir, moi j'ai fait des films là-dessus, hein, le soja transgénique de Monsanto qui est cultivé en Argentine, ensuite va transiter par le port de l'Orient pour alimenter les élevages intensifs de cochons bretons. Eh bien voilà, en faisant ça, en fait, en encourageant ça, nous encourageons évidemment l'émergence de virus parce que nous détruisons ces équilibres qui restent, qui sont là dans ces espaces naturels. Et on voit bien, c'est bien dit aussi dans le film, à un moment, Juliette a dit aux deux scientifiques américains dont je parlais tout à l'heure, Mais avec le Nipah, Ebola, bon, Ebola, c'est terrible, hein, ça tue 90.
On va y revenir, ouais, à Ebola.
C'est terrible. Enfin, toutes ces nouvelles maladies, Zika, etc. Est-ce que ce n'est pas une réaction de la nature, hein? Ben oui, parce qu'il y a un moment, on voit bien qu'on est arrivé à une. Enfin, là, on est arrivé devant le mur, quoi. C'est-à-dire, on a tellement détruit les espaces naturels que. Bah, on le paye, c'est dit aussi dans le film, hein, c'est une espèce d'énorme dette environnementale qu'on a accumulée et qu'on commence à payer à travers le dérèglement climatique, à travers la destruction de la biodiversité et à travers l'émergence de maladies infectieuses. Parce que ces trois phénomènes majeurs, ces trois défis énormes auxquels nous sommes confrontés, nous, l'humanité, ont les mêmes causes.
Serge Morand confie volontiers que la parole des scientifiques n'est pas entendue des dirigeants politiques. Rodolphe Gozlan, qu'on a écouté au début de l'émission sur le fleuve en Guyane avec Juliette Binoche, et son collègue Mathieu Nacher en ont fait l'expérience. Ils avaient prédit une possible pandémie dans la région de Wuhan en Chine en septembre 2019, deux mois avant qu'elle n'éclate.
La science, les publications ont montré quand même que les épidémies, elles étaient de plus en plus fréquentes, qu'elles se rapprochaient, qu'elles étaient de plus en plus pandémiques.
Il y a eu la dengue, il y a eu le chikungunya, puis après il y a eu le Zika, puis après il y a eu le Covid. Depuis longtemps, toute la problématique, c'est de prédire où va apparaître la prochaine maladie émergente et laquelle va apparaître, etc.
Donc on a essayé d'avoir une approche qui nous permettait de comprendre les liens entre des variables environnementales et les maladies infectieuses. On a identifié les facteurs d'émergence. Bien qu'on ait des maladies totalement différentes, elles ont des facteurs communs d'émergence.
Donc on a des cartes avec différentes informations sur la déforestation, le climat, les différentes maladies. On voit en regardant à travers le monde que quand on empile ça et ça, ben, c'est les conditions d'émergence.
Alors concrètement, quelles zones à risque avez-vous identifiées ?
Il y avait deux régions qui sortaient du lot, on va dire, hein, et qui étaient l'est de la Chine, qui comprend Wuhan, et puis l'Ouganda, au niveau de l'équateur, en Afrique de l'Est.
Donc vous voulez dire que vous aviez déjà prévu l'épidémie de la Covid-19 à Wuhan ?
Il y avait les conditions nécessaires pour que ce cocktail dangereux émerge.
Le fait que ça sorte comme une zone d'émergence d'une maladie qui maintenant affecte tout le monde montre que le travail qu'on avait fait en amont a un sens.
Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, on peut prévoir et empêcher une épidémie d'éclater.
Ce que l'on peut prévoir, c'est qu'il y en aura d'autres. Ça, on peut le prévoir. L'urgence, pour moi, elle est dans la gestion des causes qui amènent ces maladies-là.
Marie-Monique Robin, cette prédiction des deux chercheurs semble incroyable, mais quand on dit prédiction, en fait, c'est la conclusion logique d'études scientifiques très sérieuses et surtout interdisciplinaires. C'est peut-être ça aussi la nouveauté.
Voilà, c'est ça. Alors, ils n'aiment pas qu'on dise prédiction, parce que vous voyez, ce n'est pas une boule de cristal. Et... Bon, on n'a pas trouvé d'autres mots, mais en fait, c'est quand même étonnant, quoi. C'est-à-dire que cette étude est effectivement bouclée deux mois, elle a été publiée ensuite au printemps, mais elle a été bouclée, validée deux mois avant.
Oui, c'est une coïncidence très troublante.
Très troublante, et donc ils ont fait, enfin, et ça prouve effectivement que leurs méthodes sont intéressantes. Donc, ils ont essayé d'évaluer tous les facteurs, notamment écologiques, qui présidaient à l'émergence de toutes ces maladies. Et puis, à partir de là, ben, ils se sont dit, on fait des, vous voyez, des modélisations, et ils sont tombés donc sur effectivement la zone de Wuhan et en Ouganda. Donc, ça veut dire que ça marche. Donc, c'est quoi ce qu'ils font en fait? Ils ont recours à différentes disciplines, n'est-ce pas? Et c'est vraiment l'un des grands messages du film, c'est-à-dire que si nous voulons éviter les prochaines pandémies, il faut absolument avoir une vision holistique, donc globale, n'est-ce pas, de ces maladies, de ces émergences dont l'origine est écologique et avec tout ce que ça veut dire en termes d'économie, parce que tout ça est lié, évidemment. Hein. Donc, il faut faire travailler des gens avec des compétences très différentes. Et ça permettra ensuite d'identifier les zones à risque, évidemment, et ensuite de faire de la veille pour éviter que ces maladies émergent. Et puis surtout, ça peut encourager les hommes politiques à prendre des mesures qui permettront aussi d'en finir avec les causes, comme vient de le dire Rodolphe. Je vais donner l'exemple du soja. Excusez-moi, vous allez dire que c'est une obsession. Mais faire venir des millions de tonnes de soja d'Argentine ou du Brésil ou du Paraguay pour nourrir les élevages intensifs européens, c'est clairement exactement ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Donc c'est voilà, ou faire venir de l'huile de palme comme nous le faisons en France depuis l'Indonésie pour la centrale, la raffinerie de Total à Metz dans les Bouches-du-Rhône pour mettre ensuite en diesel. Eh bien, c'est clairement ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez, donc cette vision globale, elle doit servir à tous les niveaux. C'est-à-dire non seulement les chercheurs doivent mettre en commun leurs connaissances, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas. On a toujours besoin d'excellents virologues, hein, mais il faut d'excellents virologues, d'excellents parasitologues qui travaillent dans des équipes pluridisciplinaires. Avec cette volonté de trouver des solutions, parce que nous sommes véritablement, moi je suis désolé de le dire, mais franchement la situation générale est en train de se détériorer partout sur la planète, le climat ça s'emballe, les émergences, moi j'ai compris que les maladies, dans le film je n'ai pas pu parler de ce qui se passe en Sibérie par exemple avec le permafrost qui est en train de fondre, j'en parle dans le livre, hein. Des virus qui sont
qui prient
dans la glace depuis la nuit des temps, de l'anthrax, des virus d'hépatite extrêmement virulents. Enfin, je veux dire, il va falloir quand même qu'on on réagisse et on prenne des mesures. Alors, je pense que c'est encore temps de le faire, hein, parce que sinon je ne ferai pas tous ces films et ces livres. Mais il faut véritablement que les hommes politiques entendent ces paroles de scientifiques.
Alors, il y a aussi des petites lueurs d'espoir. Serge Morand travaille dans 6 villages de la province de Nan, en Thaïlande, où ce sont les communautés qui gèrent la forêt secondaire. Et ça marche. Ça incite quand même un peu à l'optimisme.
Oui, alors, c'est très intéressant parce que donc, dans cette province de Nan, on a beaucoup déforesté, notamment en raison de cultures sur brûlis pratiquées à très large échelle, n'est-ce pas ? Et du coup, d'ailleurs, vous avez vu le chef du village qui dit il y a 20 ans, la montagne était chauve, donc il n'y avait plus d'arbres, hein, à force de, voilà, de brûler les arbres, etc. Et il y a une décision gouvernementale, hein, du pays d'interdire la déforestation, n'est-ce pas ? Et du coup, les arbres ont repoussé et ça forme ce qu'on appelle une forêt secondaire.
En opposition à la forêt primaire, voilà, qui, elle, mettrait 700 ans voilà, 700 à se reconstituer. Voilà.
Alors, évidemment, ce n'est pas une forêt primaire, mais c'est quand même une forêt. Et Serge Morand, avec ses équipes de chercheurs de l'Université de Bangkok, ils suivent justement notamment le retour de la faune. Et elle revient. C'est-à-dire que ça marche, quoi. Alors ça, c'est quand même... La capacité de résilience de la nature est extraordinaire. Les chauves-souris reviennent, par exemple, alors qu'elles étaient parties, etc. Quand elles partent, c'est pas bon, hein, parce que ça veut dire qu'elles ont trimballé avec elles, vous voyez, des virus, elles étaient stressées, etc., etc. Et la bonne idée du gouvernement thaïlandais, je dois dire, c'est qu'ils ont confié la gestion de ces forêts secondaires aux villageois. Parce que si on veut bien prendre soin de ces espaces naturels, des forêts, etc., eh bien, ceux qui peuvent mieux le faire, ce sont les gens qui vivent dans ces endroits-là. Vous voyez, c'est ça qui fait qu'on peut prendre soin.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Alors, si les animaux disparaissent, nous disparaissons aussi, hein, parce qu'on a besoin d'eux pour être en bonne santé.
Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
Nos destins sont intimement liés. Sans biodiversité, il n'y a plus de vie possible. Donc on est tous sur le même bateau.
Coronavirus, COVID-19, Mefenda Gurukau, Oyeho, Why de, Fiva Nebobowo, Abre, Oho, Dododododo, Emoshe, Antisense, Antitaste, Umnimiya Uyo, Entumindidi, Eboran in the new code, Entuminja Umo, Efili Dizzy. Oh, yeah, oh, papa, yeah, you baby, you are say, baby, yeah. Hey, she will go, come in, pa. Europe will go, come in, you man, African, so that grass and mapa. She, soldier, sudo corona. Lawyer, oh, sudo corona. Malam, sudo corona. Wala, wo paste, oh, sudo corona. Me, yeah, oh, my attitude, be a sudo corona. Me, yeah, oh, my attitude, yeah, in a sudo corona. Suro corona, so who knows max is a look of chroma. Mama, who will feel to meet a social distance and weapon? I know. All the ones are for seminar, and sanitizer do fake fire. Man, damn, quick. Initially, I'm not left here. Sister, you ain't change my eye. You ain't change my pony, change ya. Tigay, cause I think in the 20th year, coffee. Am I you? My attitude.
Coronavirus, le Ghanéen Kofi Kinata sur RFI dans C'est pas du vent. On change de continent, direction l'Afrique, non pas le Ghana de Kofi Kinata, mais le Gabon.
Bonjour monsieur quoi.
Bonjour monsieur. Bonjour. Bonne arrivée.
Merci.
Il y a la gazelle ici
Il y a le pangolin, il y a le crocodile.
Tous ces animaux sont destinés à être mangés. C'est ce qu'on appelle au Gabon de la viande de brousse.
Il y a une antilope là, le pangolin est là, 5000.
En 1976, un virus très mortel, baptisé Ebola, est apparu en Afrique. La première victime identifiée avait consommé du singe. Mais cette histoire n'inquiète pas Joséphine, la bouchère.
C'est lui qui a amené Ebola, on ne sait pas qui. Mais depuis que nous on a commencé à manger ça, on n'est pas mort à cause d'Ebola. C'est bon pour la santé. Parce que là-bas en brousse, il n'y a pas de produits. Comme le poulet, comme la viande hachée. Ça, c'est la viande fraîche.
Marie-Monique Robin, on l'entend à travers cet extrait de votre documentaire « La fabrique des pandémies ». Les populations locales n'ont souvent pas d'autre choix que de consommer de la viande de brousse, même si ce n'est pas sans risque.
Oui, bien sûr. Alors, Gabon, c'est l'exemple parfait, parce que 90% du territoire est recouvert par la forêt, donc il n'y a quasiment pas d'agriculture ni d'élevage. On consomme 15 000 tonnes de viande de brousse au Gabon. C'est la seule source de protéines animales. Alors le problème, ce n'est pas tant de consommer de la viande de brousse, parce que finalement, bon, c'était l'équivalent de la chasse en France. Vous voyez, moi, je suis né sur une ferme en Poitou-Charentes. Mon grand-père, il allait parfois tuer une perdrix pour manger de la... Vous voyez, bon. Voilà. Mais c'est plutôt le fait que, d'abord, il y a des espèces qui sont menacées d'extinction, donc ça, c'est un vrai problème, et qu'il faut évidemment faire attention, parce que certaines... Comme nous venons de l'expliquer, certains animaux peuvent être contaminés par de nouveaux virus. Voilà. Ce qui est le cas, donc, l'apparition du virus Ebola est liée évidemment à la consommation de singes, notamment.
D'où ces séances de sensibilisation que vous avez choisi de filmer.
Oui, bien sûr, parce qu'il y a un très gros projet, programme de sensibilisation qui est financé par l'Union européenne et la FAO, dans plusieurs pays africains et asiatiques d'ailleurs, où il y a vraiment une forte consommation de viande de brousse, pour sensibiliser les citoyens, enfin les villageois, n'est-ce pas, au risque que peut apporter la consommation de viande de brousse. Et c'est surtout au moment où on dépèce les animaux, en fait, parce qu'une fois que vous cuisez les animaux, les virus sont tués, vous voyez. Le problème, c'est au moment où on dépèce les animaux. Donc ils veulent créer, c'est le cas au Gabon, des comités de chasseurs qui permettent véritablement de les former, de les sensibiliser aux bonnes pratiques. Voilà. Et puis l'idée, ce serait aussi de pouvoir trouver des alternatives en termes de protéines, parce qu'il faut quand même que les gens aient des protéines. Vous voyez. Donc c'est pas si simple. Vous voyez. Enfin, voilà. Nous avons, en Europe, un autre problème, les élevages intensifs de poulets qui sont à l'origine de la multiplication du virus de la grippe. C'est pareil, il faudrait sensibiliser d'ailleurs nos éleveurs intensifs, vous voyez, tous ceux qui encouragent ce genre de pratiques, eh bien, en fait, on parle de plus en plus de grippe parce qu'en fait, on a de plus en plus d'élevage intensif, et d'ailleurs en Thaïlande notamment, mais aussi en France.
Vous suivez Gaël Maganga, c'est un spécialiste du virus Ebola. Il travaille au CIRMF, le Centre international de recherche médicale de Franceville.
Ebola se transmet principalement par le contact d'une personne malade vers une personne non malade, avec tous les fluides du malade, le sang, les urines. Pour l'instant, la transmission aérienne n'a jamais été démontrée. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que le jour où cette transmission par voie aérienne s'installe, je pense que ce sera dramatique pour la planète. Ce qu'on sait aujourd'hui de l'origine du virus, c'est que les chauves-souris seraient les espèces animales réservoirs du virus. On pense que les singes, voilà, sont les hôtes amplificateurs, donc chez lesquels le virus Ebola mute et se transmet à l'homme. Les grands singes se contamineraient via la consommation de fruits souillés par les urines ou les excréments de chauves-souris. Et les humains se contamineraient à partir de ces grands singes-là via la chasse, le dépeçage, la manipulation des carcasses de ces animaux-là.
À 41 ans, Gaël affiche déjà une belle carrière. Après des études de vétérinaire au Sénégal, et un doctorat en parasitologie à l'université de Montpellier, le chercheur est retourné au Gabon, où il est devenu chasseur de virus.
Chasseur de virus, c'est un terme que je n'apprécie pas beaucoup parce que je le trouve un peu péjoratif, mais je me qualifierais plutôt comme un écologue de la santé. Parce que, en plus de chasser les virus, donc de les rechercher activement au sein de leurs réservoirs, je m'intéresse également aux facteurs écologiques qui peuvent contribuer à la propagation de ces virus-là. Il y a une étude qui démontre que 2 ans après les activités de déforestation, on a vu apparaître des flambées de maladies à virus Ebola en Afrique de l'Ouest.
Voilà, on en revient à une autre coïncidence qui n'en est pas une, la déforestation, à l'origine d'une nouvelle flambée d'Ebola.
Donc des chauves-souris qui stressent, qui excrètent leur virus, contaminent des aliments mangés par des singes, vous voyez. Et voilà, on retrouve toujours le même...
Le même circuit.
Oui, tout à fait. C'est le même schéma, en fait. Hein. Et d'ailleurs, je trouve que c'est finalement assez rassurant, entre guillemets, si on peut dire, parce que quand on parle d'Ebola, on ne peut pas dire qu'on est très rassuré. Mais parce que, vous voyez, d'ailleurs, j'ai beaucoup de messages qui vont dans ce sens quand mon livre est sorti. C'est-à-dire que ça remet un peu de la cohérence, quand même. Vous voyez, à tout ce qui nous arrive, là, on se dit, mais tout ça, est-ce que c'est une fatalité? Ça tombe du ciel? Enfin, pourquoi est-ce que d'un seul coup, il y a ce coronavirus ou ce Zika? Enfin, en fait, il y a des mécanismes qui sont mis au jour. Donc, qui dit mécanisme dit cause. Qui dit cause, ça veut dire qu'on peut agir. Vous voyez, on peut agir sur les causes. Ce n'est pas une fatalité. Vous voyez, on n'est pas obligé d'être là à attendre que ça continue. Et vous voyez, donc maintenant, la question, c'est de savoir comment on va convaincre les politiques de faire ce qu'il faut.
Alors, c'est pour ça que vous avez voulu, en même temps, que ce film soit positif, en montrant qu'en recréant du lien entre les humains et le reste du vivant, on peut encore sauver la planète.
C'est ça. Il faut que nous, les humains, nous reprenions notre juste place dans la grande chaîne du vivant. Vous voyez, et nous ne sommes qu'un maillon dans cette chaîne du vivant. Et c'est vrai que nous avons, pendant des siècles, y compris encouragés par l'Église catholique, une culture, une civilisation. Hein, voyez, il fallait dominer la nature, vous voyez, Descartes qui passe par là et qui décrit les animaux comme des machines, vous voyez, on peut remplacer des pièces. Enfin, c'est toute une vision, vous voyez, du monde du vivant que nous étions censés dominer, sauf que là, on voit qu'on est arrivé, ça y est, on ne peut plus, quoi. Donc, il faut qu'on reprenne notre juste place dans cette chaîne du vivant, en étant beaucoup moins, j'allais dire, arrogant, n'est-ce pas? Et pour cela, on peut s'inspirer. D'ailleurs, c'est ce que dit le film aussi. Moi, j'étais très impressionnée quand nous sommes allés au Kenya, chez les Maasai.
J'allais vous en parler justement. Donc, l'exemple de One Health. Expliquez-nous ce concept inspiré par le mode de vie des Maasai au Kenya.
Voilà, c'est One Health. Donc, c'est actuellement le mot d'ordre, si j'ose dire, des Nations Unies, n'est-ce pas? Une seule santé en français. Qui dit que voilà, il faut plus séparer la santé des écosystèmes, la santé des animaux sauvages et domestiques et la santé des humains parce que tout est lié. Voilà. Alors ça paraît tomber sous sens, mais sauf que si on est dans cette impasse, c'est parce qu'on l'a oublié, quoi. Voilà.
Et il y a un éleveur Maasai qui le rappelle hein, dans votre film. Il dit tout est interconnecté.
Voilà, tout à fait. Donc je reprends l'histoire du conseil de One Health dans mon livre. Dans le film, ça va un peu plus vite, mais en fait, c'est inspiré effectivement un vétérinaire américain qui a lancé ce concept de One Medicine, qui travaillait avec des peuples semi-nomades et nomades d'Afrique comme les Maasai, n'est-ce pas, qui ont la caractéristique donc d'être des éleveurs. Qui font paître leurs troupeaux, alors c'est assez impressionnant, quoi. Au milieu des singes, des éléphants, y compris des lions, parce que nous, on ne les a pas vus, les lions, mais on a vu, voilà. Et donc, en harmonie avec leur environnement, véritablement, il s'est dit, dans ces peuples-là, ceux qui prennent soin des animaux sont les mêmes qui prennent soin aussi des humains. Il ne faut plus déconnecter déjà ces deux médecines, quoi, la médecine animale et la médecine humaine. Et au-delà de ça, donc, l'idée, c'est de se dire on ne pourra pas vivre en bonne santé si les animaux sont en mauvaise santé et si l'environnement est en mauvaise santé. Donc, c'est ça, One Health.
Et chez les Maasai, les animaux vivent au centre du cercle que forment les habitations, le boma.
Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, comme il faut les protéger des hyènes et des lions, la nuit, les humains vivent autour du troupeau, on appelle ça un boma, effectivement. Et c'est aussi pour les protéger, vous voyez, des grands prédateurs. Et d'ailleurs, il y a une rencontre assez étonnante, parce que à ce moment-là, nous accompagnons un scientifique suisse, Jacob Zinstag, qui est l'un des pionniers de One Health en Europe, et qui dit, mais comment vous faites, vous, pour vivre avec... vous, éleveur, au milieu de ces grands prédateurs? Parce qu'on n'y arrive pas. Vous savez, nous, il y a beaucoup de débats sur la réintroduction du lion, du loup, du lynx, etc. On mène une guerre incroyable au renard, par exemple. Alors qu'on découvre dans ce film qu'on a besoin des prédateurs et de cohabiter. Parce que si on extermine des prédateurs comme les renards, par exemple, on déséquilibre toute la chaîne et il va y avoir des réactions, vous comprenez, des maladies. Donc, les Maasai, pour ça, mais pas que les Maasai, en fait, finalement, tous ces peuples premiers, on dit, qui ont gardé, malgré tous les aléas, et Dieu sait qu'ils en ont connu hein, pour que leur mode de vie disparaisse, ce lien intime avec la nature doivent être des sources d'inspiration, n'est-ce pas? Il faut que nous recréions du lien, c'est ce que dit Serge Morand à la fin du film, entre nous, les humains, et tout ce qui est non-humain. C'est-à-dire, si nous ne le faisons pas, donc c'est pas à la fois, c'est aussi une question éthique, vous voyez, et morale. C'est-à-dire qu'il faut véritablement que non seulement les actions politiques s'intègrent dans une vision globale, holistique, Et donc écologique, parce que l'écologie, qu'est-ce que ça veut dire l'écologie? C'est la gestion de la maison commune.
La maison commune,
ben, la maison commune c'est, ben, voilà, c'est la biodiversité, n'est-ce pas? Donc écologique, évidemment, mais aussi, c'est une question éthique, parce qu'il faut vraiment revoir notre place sur cette planète, parce que là, nous sommes devenus des super prédateurs. Alors je dirais même plutôt des super parasites, c'est ce que me disait une fois Serge Morand, qui connaît bien les parasites. Les parasites vivent, vous savez, au détriment de leur hôte, n'est-ce pas? Mais ils ne sont pas assez fous, normalement, pour détruire complètement leur hôte. Parce que s'ils ont détruit tout leur hôte, ben, ils disparaissent. Nous, on est en train de faire ça. On est en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Et ça veut dire que ben, c'est de mauvais augure pour notre survie.
Alors, il y a une autre illustration dans votre documentaire de ce nouveau concept de la santé planétaire. C'est la création à Madagascar de Valbio, un centre de recherche pour valoriser la biodiversité. L'américaine Patricia Wright est tombée amoureuse, elle, non pas des chauves-souris, mais des lémuriens. Et elle a fondé ce centre pour que les gens et les animaux survivent ensemble dans le futur. Hein, c'est ce qu'elle explique dans votre film. Et à Madagascar, eh bien, c'est une vaste tâche dans un pays parmi les plus pauvres et les plus déforestés du monde.
Oui, tout à fait. 90% de la forêt primaire a disparu à Madagascar. C'est impressionnant. Hein. C'est la première fois que j'y allais et c'est totalement, il n'y a plus d'arbres, quoi, hein, voilà. Il reste des parcs nationaux, comme nous étions d'ailleurs dans le parc de Rano Mafana, où Patricia Wright a ouvert ce centre de recherche à la fois sur les lémuriens, mais aussi sur les services écosystémiques que prête la forêt primaire à l'humanité. Et elle a compris aussi, et ça c'est important parce que tous les scientifiques que nous avons rencontrés le disent, on ne pourra pas protéger effectivement et efficacement les lémuriens, qui sont un véritable danger d'extinction. Je rappelle que les lémuriens, ce sont des primates qu'on ne trouve qu'à Madagascar. Hein. Et parce que d'abord, s'ils disparaissent, ben, il faut savoir que s'ils disparaissent, ça veut dire que la forêt a disparu. Donc le climat est tellement déréglé qu'on ne peut plus vivre. Vous voyez, et ils sont des vrais sentinelles, c'est ce qui est dit dans le film. Hein. C'est-à-dire, il faut les protéger parce que, évidemment, avec eux, ben, y a notre destin hein, qui est lié. Mais on ne pourra pas bien les préserver efficacement si on ne tient pas compte de la question de la pauvreté aussi. Parce que c'est une... Évidemment, quand on crève de faim, excusez-moi d'être un peu... Voilà, eh bien, protéger les lémuriens, c'est quand même... voilà. Et donc, on en revient toujours à cette question de ce modèle économique dominant. Hein, vous savez, toujours plus de production, toujours plus de consommation, la croissance. Moi, j'ai fait un film et un livre là-dessus. Et puis, l'inégale répartition des richesses hein, qui fait que... On a 28 milliardaires qui possèdent autant que 3 milliards 500 millions d'habitants. Eh bien, ça, c'est plus possible, quoi, parce que finalement, le prix à payer est énorme, et pour tout le monde, y compris les milliardaires. Parce qu'il y a un moment, quand la maison commune va vraiment s'effondrer, elle est déjà en train de véritablement de. Ben voilà, il y a des failles partout, hein, eh bien, ça sera difficile d'éviter si nous ne réagissons pas maintenant rapidement. Voilà.
Merci beaucoup Marie-Monique Robin d'avoir été l'invitée de C'est pas du vent. Votre documentaire La fabrique des pandémies sera diffusé sur Ushuaïa TV le 22 mai et sur France TV Outre-mer le 23 mai. Il sera également diffusé ultérieurement sur la RTBF en Belgique et puis sur la RTS et la RSI en Suisse. Des projections débats ont lieu en ce moment dans toute la France avec un détour par Genève le 4 mai, par Bruxelles le 11 mai. Toutes les dates sont à retrouver sur la page Facebook du film ou sur la vôtre, Marie-Monique Robin. Je signale aussi à nos auditeurs que votre livre écrit en collaboration avec Serge Morand, La fabrique des pandémies, agrémenté d'une postface inédite, vient de sortir en pocket. Merci à François Porcheron qui a réalisé cette émission et à vous qui nous écoutez. Portez-vous bien.